VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. Les efforts pour régler le conflit en Libye se sont intensifiés mardi avec l'annonce par Moscou d'une trêve prolongée de manière indéfinie et celle de la tenue d'une conférence internationale dimanche à Berlin pour tenter d'amorcer un processus de paix. Cette conférence internationale sur la Libye sera organisée sous l'égide de l'ONU, a confirmé le gouvernement allemand mardi, afin de poursuivre les efforts diplomatiques visant à parvenir à une résolution du conflit. L'annonce concernant la trêve est intervenue lors de négociations à Moscou en Russie, en présence des deux chefs rivaux libyens, qui ne se sont cependant pas directement rencontrés, et l'un d'eux, le maréchal Khalifa Haftar, a refusé de signer un accord formel de cessez-le-feu dans l'immédiat. En Guinée, le cycle des manifestations et répressions s'enchaîne à nouveau. Les opposants à un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé ne sont pas prêts de baisser les bras, Idrissa Seydou Dia.
Les violences politiques ont fait une nouvelle victime hier dans ce pays en proie à une intensification de la contestation contre le projet de troisième mandat attribué au président Alpha Condé. La victime, identifiée comme Souleyman Barry par le ministère de la Sécurité, est au moins le troisième civil tué par balle depuis lundi. Au total, au moins 23 civils et un gendarme ont trouvé la mort depuis la mi-octobre et le début d'une protestation à plusieurs reprises durement réprimée par les services de sécurité. Le mouvement est monté d'un cran lundi avec le lancement par l'opposition d'une mobilisation massive et illimitée.
Le groupe État islamique a revendiqué hier l'attaque de Shinigoda dans l'ouest du Niger, attaque qui a fait ce mois 89 morts. Le même groupe avait revendiqué l'attaque de la base d'Inates qui avait fait 71 morts en décembre et qui Abadou fait le point.
Les soldats du califat ont attaqué une base de l'armée nigérienne dans le village de Shinogodar jeudi 9 janvier. Les combats ont duré plusieurs heures, affirme le communiqué du groupe État islamique qui assure avoir tué 100 éléments de l'armée nigérienne. Le groupe, qui ne précise pas ses pertes, affirme aussi avoir détruit de nombreux véhicules, brûlé les casernes et avoir emporté des véhicules, des armes et des munitions. Dimanche, les autorités nigériennes avaient revu à la hausse le bilan passant de 25 à 89 soldats tués et 63 terroristes neutralisés. Cette attaque est survenue un mois après celle d'Inates dans la même région de Tillaberi, frontalière du Mali, qui avait coûté la vie à 71 soldats. Cette attaque aussi a été revendiquée par le même groupe. Lundi, le président nigérien Mahamadou Issoufou a entièrement remanié la tête de l'armée nigérienne avant de se rendre au sommet de Pau dans le sud-ouest de la France. Selon les Nations Unies, les attaques djihadistes récurrentes au Mali, au Niger et au Burkina Faso ont fait plus de 4000 morts en 2019.
Le consulat de Belgique à Lubumbashi, dans le sud-est de la RDC, a repris du service, signe de la normalisation des relations entre deux pays liés par l'histoire, malgré le report inédit d'une visite du ministre belge des Affaires étrangères en République démocratique du Congo. Le consulat général a ouvert ses portes lundi après 2 ans de fermeture, a précisé mardi l'ambassade belge à Kinshasa. Le consulat dans la capitale économique avait été fermé début 2018 au plus fort de la crise entre Kinshasa et son ancienne puissance coloniale. Plus de 140 000 personnes tuées ou portées disparues lors de différentes crises qui ont endeuillé le Burundi depuis son indépendance en 1962 ont déjà été identifiées, a annoncé mardi la Commission Vérité et Réconciliation CVR, en insistant sur le fait qu'il s'agissait d'un chiffre provisoire. La CVR du Burundi a déjà recensé à ce jour plus de 4000 fosses communes de différentes tailles à travers tout le pays. Entre 250 et 270 corps ont été déterrés au cours des 3 dernières semaines lors d'une opération fortement médiatisée à Kamenge, un quartier populaire de la périphérie nord-est de Bujumbura, où est né au début de la guerre civile en 1993 l'ex-rébellion du CNDD-FDD, aujourd'hui au pouvoir. L'Égypte a annoncé mercredi avoir commencé à recevoir du gaz naturel d'Israël qui sera liquéfié et exporté en Europe dans le cadre d'un accord évalué à 13,3 milliards d'euros entre les deux pays. Cet accord représente un important développement qui sert les intérêts économiques des deux pays, a indiqué le ministère égyptien du pétrole dans un communiqué. Selon le ministère, l'Égypte ambitionne via cet accord de devenir un hub régional dans le domaine du gaz. Et puis les États-Unis Nations Unies ont prévenu mardi le Soudan que la question des réparations des victimes du terrorisme était une priorité pour Washington au moment d'étudier un éventuel retrait de Khartoum de leur liste noire. Le numéro 3 de la diplomatie américaine, David Hale, a reçu au département d'État la ministre soudanaise des Affaires étrangères. Ils ont passé en revue les critères politiques et juridiques pour un retrait du Soudan de la liste des États soutenant le terrorisme, a déclaré la porte-parole de la diplomatie américaine, Morgan Ortagus, dans un communiqué à Washington ici. Il est 6h05 minutes 35 secondes.
Nos infos sur voaafrique.com.
Bienvenue sur le journal de la VOA. 6 candidats en course pour l'investiture démocrate en vue de la présidentielle de novembre prochain se sont retrouvés mardi pour un 7e débat, le dernier avant le coup d'envoi des primaires dans l'Iowa. Ce sera le 3 février prochain. Les derniers sondages montrent une lutte extrêmement serrée entre 4 candidats, l'ancien vice-président Joe Biden, le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren et le maire de South Bend dans l'Indiana, Pete Buttigieg. Le débat de mardi organisé à Des Moines dans l'Iowa a donné lieu à des échanges tendus entre Sanders et Biden sur des thématiques comme la politique internationale ou l'assurance santé. Les prochains débats auront lieu le 7 février dans le New Hampshire, suivi par ceux dans le Nevada et en Caroline du Sud, respectivement les 19 et 25 février. Après des semaines d'attente, la Chambre des représentants va voter aujourd'hui pour transmettre au Sénat l'acte d'accusation qu'elle a retenu contre le président Donald Trump, ultime étape avant le début du procès en destitution du président républicain. Les détails avec Anne Alberson.
Le procès en destitution du président américain Donald Trump devrait s'ouvrir mardi prochain, a annoncé le chef de file de la majorité républicaine au Sénat, après avoir appris que les démocrates de la Chambre des représentants étaient prêts à lui transmettre l'acte d'accusation retenu contre M. Trump. Mardi, à l'issue d'une réunion à huis clos avec ses élus, Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre basse, qui avait retardé l'envoi de l'acte en question, a finalement annoncé que ce document serait transmis dès aujourd'hui après un ultime vote en séance plénière à la Chambre. Le président des États-Unis est accusé d'abus de pouvoir et d'entrave à l'enquête du Congrès.
Michael Flynn, ancien conseiller à la sécurité nationale du président Donald Trump, a demandé mardi à un juge la permission de retirer son plaidoyer coupable dans l'enquête aux États-Unis sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. Monsieur Flynn a changé d'avocat en juin. Selon ses nouveaux conseils, les procureurs lui ont demandé d'avouer faussement qu'il avait menti en remplissant auprès du ministère de la Justice des formulaires pour dissimuler le travail effectué par son cabinet de lobbying pour l'État turc. Ce rebondissement intervient alors que Monsieur Flynn devait être condamné dans 2 semaines. Tout changement de plaidoyer doit être approuvé par un juge. Et le président Donald Trump va paraffer ce mercredi un accord synonyme de trêve à la guerre commerciale avec la Chine. La signature de ce traité prévu à la Maison-Blanche en présence du vice-premier ministre chinois Liu He va mettre temporairement fin à un bras de fer dont l'enjeu est ni plus ni moins la domination économique et technologique mondiale. Entamé au printemps 2018 pour mettre fin aux pratiques commerciales chinoises jugées déloyales, ce conflit s'est matérialisé par des droits de douane punitifs réciproques sur des centaines de milliards de dollars de marchandises. Et puis Téhéran a annoncé mardi des arrestations dans le cadre de l'enquête sur l'avion civil ukrainien abattu en Iran, où des manifestations ont eu lieu pour le 4e jour dans le sillage de l'indignation provoquée par ce drame. Selon de nouvelles images, impossible à authentifier immédiatement, de nouvelles manifestations ont eu lieu mardi soir dans des universités à Téhéran et des affrontements pourraient avoir eu lieu entre étudiants et des Basidji qui sont des volontaires musulmans loyalistes au régime. Fait extrêmement rare, l'agence de presse Fars, proche des ultra-conservateurs, avait rapporté lundi que les contestataires avaient crié la veille « mort au dictateur » et scandé des slogans hostiles aux gardiens de la révolution, l'armée idéologique iranienne. Point final à ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francisque. Bon après-midi à tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.